Honoré de Balzac, Les Proscrits, chapitre 3, Le Poète. Où suis-je? Demanda-t-il avec une expression de plaisir. Chez vous, dit le vieillard en regardant avec surprise le cou de Godefroy, le clou auquel la corde avait été attachée et qui se trouvait encore au bout. Dans le ciel? Répondit l'enfant d'une voix délicieuse. Non, sur la terre, répliqua le vieillard. Godefroy marcha dans la ceinture de lumière tracée par la lune à travers la chambre, dont le vitrail était ouvert. Il revit la scène frémissante, les saules et les herbes du terrain. Une nuageuse atmosphère s'élevait au-dessus des eaux comme un dais de fumée. À ce spectacle, pour lui désolant, il se croisa les mains sur la poitrine et prit une attitude de désespoir. Le vieillard vint à lui, l'étonnement peint sur la figure. « Vous avez voulu vous tuer ?» lui demanda-t-il. « Oui, répondit Godefroy en laissant l'étranger lui passer à plusieurs reprises les mains sur le cou pour examiner l'endroit où les efforts de la corde avaient porté. Malgré de légères contusions, le jeune homme avait dû peu souffrir. Le vieillard présuma que le clou avait promptement cédé au poids du corps et que ce fatal essai s'était terminé par une chute sans danger. Pourquoi donc, cher enfant? Avez-vous tenté de mourir? Ah, répondit Godefroy, ne retenant plus les larmes qui roulaient dans ses yeux. J'ai entendu la voix d'en haut. Elle m'appelait par mon nom. Elle ne m'avait pas encore nommé. Mais cette fois, elle me conviait au ciel. Oh, combien cette voix est douce! Ne pouvant m'élancer dans les cieux, ajouta-t-il avec un geste naïf, j'ai pris pour aller à Dieu la seule route que nous ayons. Ô enfant, enfant sublime! S'écria le vieillard en enlaçant Godefroy dans ses bras et le pressant avec enthousiasme sur son cœur. Tu es poète, tu sais monter intrépidement sur l'ouragan. Ta poésie à toi ne sort pas de ton cœur. Tes vives, tes ardentes pensées, tes créations marchent et grandissent dans ton âme. Va, ne livre pas tes idées au vulgaire. Sois l'autel, la victime et le prêtre tout ensemble. Tu connais les cieux, n'est-ce pas? Tu as vu ces myriades d'anges aux blanches plumes, aux sistres d'or qui sous-tendent d'un vol égal vers le trône. Et tu as admiré souvent leurs ailes qui, sous la voix de Dieu s'agite comme les touffes harmonieuses des forêts sous la tempête. Oh, combien l'espace sans borne est beau, dis! Le vieillard serra convulsivement la main de Godefroy, et tous deux contemplèrent le firmament dont les étoiles semblaient verser de caressantes poésies qu'ils entendaient. Oh, voir Dieu! S'écria doucement Godefroy. Enfant, reprit tout à coup l'étranger d'une voix sévère, as-tu donc si tôt oublié les enseignements sacrés de notre bon maître, le docteur Sigier? Pour revenir, toi, dans ta patrie céleste, et moi, dans ma patrie terrestre, ne devons-nous pas obéir à la voix de Dieu? Marchons résignés dans les rudes chemins où son doigt puissant a marqué notre route. Ne frémis-tu pas du danger auquel tu t'es exposé? Venu sans ordre, ayant dit « me voilà » avant le temps, ne serais-tu pas retombé dans un monde inférieur à celui dans lequel ton âme voltige aujourd'hui? Pauvre chérubin égaré, ne devrais-tu pas bénir Dieu de t'avoir fait vivre dans une sphère où tu n'entends que de célestes accords? N'es-tu pas pur comme un diamant, beau comme une fleur, Ah, si, semblable à moi, tu ne connaissais que la cité des douleurs. À m'y promener, je me suis usé le cœur. Oh, fouiller dans les tombes pour leur demander d'horribles secrets, essuyer des mains altérées de sang, les compter pendant toutes les nuits, les contempler levées vers moi, en implorant un pardon que je ne puis accorder. Étudier les convulsions de l'assassin et les derniers cris de sa victime. Écouter d'épouvantables bruits et d'affreux silences, le silence d'un père dévorant ses fils morts. Interroger le rire des damnés, chercher quelques formes humaines parmi des masses décolorées que le crime a roulées et tordues. Apprendre des mots que les hommes vivants n'entendent pas sans mourir. Toujours évoquer les morts, pour toujours les traduire et les juger. Est-ce donc une vie? Arrêtez! S'écria Godefroy. Je ne saurais vous regarder, vous écouter davantage. Ma raison s'égare, ma vue s'obscurcit. Vous allumez en moi un feu qui me dévore. Je dois cependant continuer, reprit le vieillard en secouant sa main par un mouvement extraordinaire qui produisit sur le jeune homme l'effet d'un charme. Pendant un moment, l'étranger fixa sur Godefroy ses grands yeux éteints et abattus. Puis il étendit le doigt vers la terre. Vous eussiez cru voir alors un gouffre entr'ouvert à son commandement. Il resta debout, éclairé par les indécis et vagues reflets de la lune qui firent resplendir son front, d'où s'échappa comme une lueur solaire. Si d'abord une expression presque dédaigneuse se perdit dans les sombres plis de son visage, bientôt son regard contracta cette fixité qui semble indiquer la présence d'un objet invisible aux organes ordinaires de la vue. Certes, ses yeux contemplèrent alors les lointains tableaux que nous garde la tombe. Jamais, peut-être, cet homme n'eut une apparence si grandiose. Une lutte terrible bouleversa son âme, vint réagir sur sa forme extérieure, et, quelque puissant qu'il parût être, il plia comme une herbe qui se courbe sous la brise messagère des orages. Godefroy resta silencieux, immobile, enchanté. Une force inexplicable le cloua sur le plancher. Et comme lorsque notre attention nous arrache à nous-mêmes, dans le spectacle d'un incendie ou d'une bataille, il ne sentit plus son propre corps. Veux-tu que je te dise la destinée au-devant de laquelle tu marchais, pauvre ange d'amour? Écoute, il m'a été donné de voir les espaces immenses, les abîmes sans fin où vont s'engloutir les créations humaines, cette mer sans rive où court notre grand fleuve d'hommes et d'anges. En parcourant les régions des éternels supplices, j'étais préservé de la mort par le manteau d'un immortel, ce vêtement de gloire dû au génie, et que se passent les siècles, moi, chétif. Quand j'allais par les campagnes de lumière où se pressent les heureux, l'amour d'une femme, les ailes d'un ange, me soutenaient. Porté sur son cœur, je pouvais goûter ses plaisirs ineffables, dont l'étreinte est plus dangereuse pour nous mortels que ne le sont les angoisses du monde mauvais. En accomplissant mon pèlerinage à travers les sombres régions d'en bas, j'étais parvenu de douleur en douleur, de crime en crime, de punitions en punitions, de silences atroces en cris déchirants sur le gouffre supérieur au cercle de l'enfer. Déjà, je voyais dans le lointain la clarté du paradis qui brillait à une distance énorme. J'étais dans la nuit, mais sur les limites du jour. Je volais, emporté par mon guide, entraînés par une puissance semblable à celle qui, pendant nos rêves, nous ravit dans les sphères invisibles aux yeux du corps. L'auréole qui ceignait nos fronts faisait fuir les ombres sur notre passage comme une impalpable poussière. Loin de nous, les soleils de tous les univers jetaient à peine la faible lueur des lucioles de mon pays. J'allais atteindre les champs de l'air où, vers le paradis, les masses de lumière se multiplient, où l'on fend facilement l'azur, où les innombrables mondes jaillissent comme des fleurs dans une prairie. Là, sur la dernière ligne circulaire qui appartenait encore aux fantômes que je laissais derrière moi, semblables à des chagrins qu'on veut oublier, je vis une grande ombre. Debout et dans une attitude ardente, cette âme dévorait les espaces du regard. Ses pieds restaient attachés par le pouvoir de Dieu sur le dernier point de cette ligne où elle accomplissait sans cesse la tension pénible par laquelle nous projetons nos forces lorsque nous voulons prendre notre élan comme des oiseaux prêts à s'envoler. Je reconnus un homme. Il ne nous regarda, ne nous entendit pas. Tous ses muscles tressaillaient et haletaient. Par chaque parcelle de temps, il semblait éprouver sans faire un seul pas la fatigue de traverser l'infini qui le séparait du paradis où sa vue plongeait sans cesse, où il croyait entrevoir une image chérie. Sur la dernière porte de l'enfer, comme sur la première, je lus une expression de désespoir dans l'espérance. Le malheureux était si horriblement écrasé par je ne sais quelle force que sa douleur passa dans mes os et me glaça. Je me réfugiai près de mon guide, dont la protection me rendit à la paix et au silence. Semblable à la mer dont l'œil perçant voit le Milan dans les airs ou l'y devine, l'ombre poussa un cri de joie. Nous regardâmes là où il regardait, et nous vîmes comme un saphir flottant au-dessus de nos têtes dans les abîmes de lumière. Cette éclatante étoile descendait avec la rapidité d'un rayon de soleil quand il apparaît au matin sur l'horizon, et que ses premières clartés glissent furtivement sur notre terre. La splendeur devint distincte. Elle grandit. J'aperçus bientôt le nuage glorieux au sein duquel vont les anges. Espèce de fumée brillante émanée de leur divine substance et qui çà et là pétille en langue de feu. Une noble tête, de laquelle il est impossible de supporter l'éclat sans avoir revêtu le manteau, le laurier, la palme, attribut des puissances, s'élevait au-dessus de cette nuée, aussi blanche, aussi pure que la neige. C'était une lumière dans la lumière. Ses ailes en frémissant semaient d'éblouissantes oscillations dans les sphères par lesquels il passait, comme passe le regard de Dieu à travers les mondes. Enfin, je vis l'archange dans sa gloire. La fleur d'éternelle beauté qui décore les anges de l'esprit brillait en lui. Il tenait à la main une palme verte et de l'autre un glaive flamboyant. La palme pour en décorer l'ombre pardonnée, le glaive pour faire reculer l'enfer entier par un seul geste. À son approche, nous sentîmes les parfums du ciel qui tombèrent comme une rosée. Dans la région où demeura l'ange, l'air prit la couleur des opales et s'agita par des ondulations dont le principe venait de lui. Il arriva, regarda l'ombre, lui dit « À demain ». Puis il se retourna vers le ciel par un mouvement gracieux étendit ses ailes, franchit les sphères, comme un vaisseau fend les ondes en laissant à peine voir ses blanches voiles à des exilés laissés sur quelque plage déserte. L'ombre poussa d'effroyables cris auxquels les damnés répondirent, depuis le cercle le plus profondément enfoncé, dans l'immensité des mondes de douleur, jusqu'à celui plus paisible à la surface duquel nous étions. La plus poignante de toutes les angoisses avait fait un appel à toutes les autres. La clameur se grossit des rugissements d'une mer de feu, qui servait comme de base à la terrible harmonie des innombrables millions d'âmes souffrantes. Puis, tout à coup, l'ombre prit son vol à travers la cité dolente et descendit de sa place jusqu'au fond même de l'enfer. Elle remonta subitement, revint, se replongea dans les cercles infinis, les parcourut dans tous les sens, semblable à un vautour qui, mis pour la première fois dans une volière, s'épuise en efforts superflus. L'ombre avait le droit d'errer ainsi et pouvait traverser les zones de l'enfer, glaciale, fétide, brûlante, sans participer à leurs souffrances. Elle glissait dans cette immensité comme un rayon du soleil se fait jour au sein de l'obscurité. Dieu ne lui a point infligé de punition, me dit le maître, mais aucune de ces âmes de qui tu as successivement contemplé les tortures, ne voudrait changer son supplice contre l'espérance sous laquelle cette âme succombe. En ce moment, l'ombre revint près de nous, ramenée par une force invincible qui la condamnait à sécher sur le bord des enfers. Mon divin guide, qui devina ma curiosité, toucha de son rameau le malheureux occupé peut-être à mesurer le siècle de peine qui se trouvait entre ce moment et ce lendemain toujours fugitif. L'ombre tressaillit et nous jeta un regard plein de toutes les larmes qu'elle avait déjà versées. Vous voulez connaître mon infortune ? Dit-elle d'une voix triste. Oh, j'aime à la raconter. Je suis ici, Teresa est là-haut, voilà tout. Sur terre, nous étions heureux, nous étions toujours unis. Quand je vis pour la première fois ma chère Teresa Donati, elle avait 10 ans. Nous nous aimâmes alors, sans savoir ce qu'était l'amour. Notre vie fut une même vie. Je pâlissais de sa pâleur. J'étais heureux de sa joie. Ensemble, nous nous livrâmes au charme de penser, de sentir, et l'un par l'autre, nous apprîmes l'amour. Nous fûmes mariés dans Crémone. Jamais nous ne connûmes nos lèvres que parés des perles du sourire. Nos yeux rayonnèrent toujours, nos chevelures ne se séparèrent pas plus que nos yeux. Toujours nos deux têtes se confondaient quand nous lisions, toujours nos pas s'unissaient quand nous marchions. La vie fut un long baiser, notre maison fut une couche. Un jour, Teresa pâlit et me dit pour la première fois « Je souffre et je ne souffrais pas. » Elle ne se releva plus. Je vis, sans mourir, ses beaux traits s'altérer, ses cheveux d'or s'endolorir. Elle souriait pour me cacher ses douleurs, mais je les lisais dans l'azur de ses yeux dont je savais interpréter les moindres tremblements. Elle me disait: Honorino, je t'aime. Au moment où ses lèvres blanchirent. Enfin, elle serrait encore ma main dans ses mains quand la mort les glaça. Aussitôt, je me tuais pour qu'elle ne couchât pas seule dans le lit du sépulcre sous son drap de marbre. Elle est là-haut, Teresa. Moi, je suis ici. Je ne voulais pas la quitter. Dieu nous a séparés. Pourquoi donc nous avoir unis sur la terre? Il est jaloux. Le paradis a été, sans doute, bien plus beau du jour où Teresa y est montée. La voyez-vous? Elle est triste dans son bonheur. Elle est sans moi. Le paradis doit être bien désert pour elle. Maître, dis-je en pleurant, car je pensais à mes amours. Au moment où celui-ci souhaitera le paradis pour Dieu seulement, ne sera-t-il pas délivré? Le père de la poésie inclina doucement la tête en signe d'assentiment. Nous nous éloignâmes en fendant les airs, sans faire plus de bruit que les oiseaux qui passent quelquefois sur nos têtes quand nous sommes étendus à l'ombre d'un arbre. Nous eussions vainement tenté d'empêcher l'infortuné de blasphémer ainsi. Un des malheurs des anges des ténèbres est de ne jamais voir la lumière, même quand ils en sont environnés. Celui-ci n'aurait pas compris nos paroles. En ce moment, le parapide de plusieurs chevaux retentit au milieu du silence. Le chien aboya. La voix grondeuse du sergent lui répondit. Des cavaliers descendirent, frappèrent à la porte, et le bruit s'éleva tout à coup avec la violence d'une détonation inattendue. Les deux proscrits, les deux poètes, tombèrent sur terre de toute la hauteur qui nous sépare des cieux. Le douloureux brisement de cette chute courut comme un autre sang dans leurs veines, mais en sifflant, en y roulant des pointes acérées et cuisantes. Pour eux, la douleur fut en quelque sorte une commotion électrique. La lourde et sonore démarche d'un homme d'armes dont l'épée, dont la cuirasse et les éperons produisaient un cliquetis ferrugineux, retentit dans l'escalier. Puis un soldat se montra bientôt devant l'étranger surpris. Nous pouvons rentrer à Florence, dit cet homme, dont la grosse voix parut douce en prononçant des mots italiens. Que dis-tu? Demanda le grand vieillard. Les Blancs triomphent. Ne te trompes-tu pas? Reprit le poète. Non, cher Dante, répondit le soldat dont la voix guerrière exprima les frissonnements des batailles et les joies de la victoire. À Florence! À Florence! Ô ma Florence! Cria vivement Dante Alighieri, qui se dressa sur ses pieds, regarda dans les airs, crut voir l'Italie, et devint gigantesque. Et moi, quand serai-je dans le ciel? Dit Godefroy, qui restait un genou en terre devant le poète immortel, comme un ange en face du sanctuaire. Viens à Florence, lui dit Dante d'un son de voix compatissant. Va. Quand tu verras ces amoureux paysages du haut de Fiesole, tu te croiras au paradis. Le soldat se mit à sourire. Pour la première fois, pour la seule fois peut-être, la sombre et terrible figure de Dante respira une joie. Ses yeux et son front exprimaient les peintures de bonheur qu'il a si magnifiquement prodiguées dans son paradis. Il lui semblait peut-être entendre la voix de Béatrix. En ce moment, le pas léger d'une femme et le frémissement d'une robe retentirent dans le silence. L'aurore jetait alors ses premières clartés. La belle comtesse Mao entra, courut à Godefroy.
« Viens, mon enfant, mon fils, il m'est maintenant permis de t'avouer. Ta naissance est reconnue, tes droits sont sous la protection du roi de France, et tu trouveras un paradis dans le cœur de ta mère. »
« Je reconnais la voix du ciel !» cria l'enfant ravi.
Ce cri réveilla Dante, qui regarda le jeune homme enlacé dans les bras de la comtesse. Il les salua par un regard et laissa son compagnon d'étude sur le sein maternel.
« Partons ! » s'écria-t-il d'une voix tonnante. « Mort aux guelfes !»
Paris, octobre 1831.